Chapitre 45. Place Paul Painlevé, Paris, France.
Où sommes-nous ?
Demanda Cécile en se frottant les yeux. Devant elle s'étalait la vitrine d'une boutique de livres anciens. Réveillé ? Fit Zach. Terminus, nous sommes à Paris. 5e arrondissement, au cœur du quartier latin. Le temple de la connaissance. Place Paul Painlevé.
Toute ma jeunesse, commenta Arsène en s'étirant.
Il désigna dans leur dos deux grands bâtiments voisins.
Le Collège de France et l'École nationale des chartes. J'ai rôdé autour de ces établissements pendant des années.
Vous allez rester là ?
S'inquiéta Cécile en observant la Toyota Corolla garée à cheval sur le trottoir. Zach plaisanta. C'est l'avantage de circuler dans un véhicule de location, non ? Ils sortirent. L'air frais dissipait leur torpeur.
Il habite par là ?
Demanda Cécile.
Votre ami Jean-René ?
Jean-Bernard.
Oui,
pas loin.
Comment ça, pas loin ?
Dans le 6e. Derrière le jardin du Luxembourg. Il nous attend pour 11h, nous avons le temps.
Le temps de quoi ?
Zach soupira. Arsène se tordait le cou à observer la perspective des rues qui longeaient la place Paul Painlevé. Puisait-il dans ses souvenirs d'étudiant, ou, encore traumatisé, guettait-il avec angoisse l'irruption des tueurs en monospace ? Zach précisa.
Le temps de vous expliquer certaines choses.
D'ailleurs, le professeur Pareya me l'a demandé hier. Cécile détailla la jolie place. Aussitôt, elle comprit. Un antiquaire en face d'elle avait baptisé sa boutique « La licorne de Cluny » et avait dessiné l'animal mythique en or sur sa devanture pourpre. Elle se tourna. Dans leur dos, la rue était bordée d'un haut mur de pierre crénelé, dissimulant un grand hôtel particulier auquel les tourelles donnaient une allure vaguement gothique. Un drapeau pendait devant la voûte. Musée national du Moyen-Âge, thermes et hôtel de Cluny. Illustré d'un dessin un peu plus explicite, une licorne.
Oh, c'est pas vrai,
gémit Cécile.
Au lieu de nous installer à une terrasse avec un café et des croissants, vous allez encore nous servir votre délire.
Zach, vous n'êtes jamais fatigué.
Ça prendra que quelques minutes et...
Désolé,
coupa la chercheuse.
Reconnaissez que je suis obéissante. À Chartres, j'ai lu la Genèse, chapitre 6 à 9. On n'y trouve absolument aucune trace de licorne.
Je vais vous prouver le contraire, venez. Ce traître d'Arsène les devançait déjà.
Et si on vous reconnaît ?
Glissa Cécile. Zach releva le col de sa veste. Mal rasé, hirsute comme il l'était, la chercheuse lui trouva une force fauve qu'elle n'avait pas repérée auparavant.
Je prends le risque.
Avant d'entrer sous la voûte de l'hôtel de Cluny, Cécile observa une dernière fois la place Paul Painlevé. Avait-il définitivement semé les tueurs ? Elle s'avança à la hauteur de Zach.
À quoi voulez-vous encore nous faire jouer, Zach et Gabi ?
À mon seul désir.
Arsène lança un clin d'œil admiratif à Zach. Le geste mit immédiatement Cécile en rage. Une fois encore, elle ne comprenait rien à leur sous-entendu. Inexplicablement, son professeur et ce dingue se comportaient comme de vieux complices. Arsène Pareya remarqua les poings serrés de la chercheuse. Il la prit dans ses bras et fit signe à Zach et Gabi de se taire.
Du calme, Cécile. Nous sommes tous fatigués. Il n'y a aucun secret derrière tout ceci. Le musée national du Moyen-Âge où nous emmène Zach et Gabi est organisé autour d'une pièce de collection unique, l'emblème de l'hôtel de Cluny, les 6 fameuses tapisseries de la Dame à la licorne, l'un des chefs-d'œuvre les plus énigmatiques au monde. Sur chaque tapisserie, la même noble jeune femme est représentée avec pour principal animal de compagnie une licorne blanche. Des centaines de livres ont été consacrés à son mystère. Pour tout vous dire, j'ai même remarqué que ces tapisseries ornent les murs de la maison Gryffondor dans les films d'Harry Potter.
À cette dernière référence, Cécile observa avec consternation son professeur. Derrière eux défilait une classe d'enfants d'une dizaine d'années. L'instituteur fermait la marche.
Les 5 tentures représentent les 5 sens, continua Pareya.
Il s'agit d'une fort jolie pièce tissée au 15e siècle.
Le goût, quand la dame mange une dragée, l'ouïe, quand elle joue de l'orgue, la vue, lorsque la licorne se regarde dans un miroir tenu par la dame, l'odorat, avec la couronne de fleurs que la dame tresse, le toucher, enfin, quand elle tient la corne de la créature merveilleuse dans ses mains.
Cécile siffla entre ses dents.
Très suggestif. On montre cela à des enfants.
La 6e tapisserie l'est plus encore. C'est celle qui attise le mystère depuis un siècle. Elle représente les mêmes personnages, mais une formule étrange orne le tableau. À mon seul désir.
La classe entrait bruyamment dans le musée du Moyen-Âge. Des touristes japonais patientaient derrière eux.
Et un mystère de plus, fit Cécile. On fait des repérages pour le prochain Da Vinci Code Tour?
Zach prit le relais. Cette énigme-là, désolé, on va la laisser de côté. Dans une autre aventure, peut-être.
Que fait-on ici, alors?
Vous allez comprendre en entrant.
Si vous espérez me faire croire aux légendes des licornes...
Ce n'est pas une légende, Cécile. Je vais uniquement vous parler de faits scientifiques.
Cécile souffla de dépit et observa son professeur, croisant les doigts pour qu'il ne lance pas à l'aventurier un nouveau clin d'œil complice.
On entrait et on sortait dans le musée du Moyen-Âge par la boutique. Un vieux truc commercial. D'ailleurs, elle valait le coup d'œil. On y trouvait, comme il se doit, des ouvrages sérieux et austères sur les cathédrales, la vie quotidienne dans la France rurale, l'héraldique, mais les mêmes rayonnages faisaient la part belle aux mystères médiévaux. Secrets des Templiers, bestiaires d'animaux fantastiques et recettes de sorcellerie. Les haut-parleurs diffusaient en boucle un entêtant crin-crin de mandole, censé plonger le visiteur dans une ambiance moyenâgeuse. La plus grande originalité de la boutique, cependant, tenait à son incroyable collection de licornes. L'animal mythique était décliné dans tous les produits dérivés possibles. Puzzles, marque-pages, stylos, sous-mains, foulards, cravates, figurines en plastique, parapluies, nappes, broches. Ils pénétrèrent dans les différentes salles du musée. La grande salle d'exposition des six tapisseries de la Dame à la licorne était stratégiquement située au bout du musée. Les pièces se succédaient, avec leur capharnaüm de sculptures, de bas-reliefs, de tapisseries, d'armures, d'écus et de blasons. Partout, des flèches indiquaient l'attraction principale, la Dame à la licorne. Ils doublèrent la classe primaire et le groupe de Japonais. Autant pour les petits Français, ce musée poussiéreux semblait représenter le comble de l'ennui, autant il apparaissait pour les étrangers comme une sorte de décor unique de cinéma, puissamment évocateur de bruissements d'armes et de complots religieux. Car c'est bien ce qui frappait Cécile au fil de sa visite. Dans chaque détail, la religion se mêlait au pouvoir. Tout l'ordre de la société reposait sur les symboles religieux, de la vie quotidienne des paysans aux fastes royales, patiemment entretenues dans l'imaginaire collectif depuis 2 millénaires. Ils franchirent encore une pièce consacrée aux cathédrales. Enfin, ils y étaient. Un rideau noir dissimulait l'entrée. Salle numéro 13. La Dame à la licorne.